BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la deuxième heure de BFM Patrimoine qui commence et on file tout de suite sur le marché pour prendre le pouls de la séance en cours, séance qui se joue visiblement autour des 6000 points. Nitin Kedna nous attend chez Portes en Parts, bonjour Nitin.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Alors c'est sur les 6000 qu'on a posé les sacs de sable et qu'on cherche à tenir.
C'est effectivement ça, on a une grosse haussière de plus 4% et avec des volumes un petit peu étoffés, là on est aux alentours des 6000 points avec des volumes qui tangentent les 600 millions. C'est quand même assez étoffé puisque ça fait pas mal de temps qu'on n'avait pas vu autant de ce niveau de volume sur à cette heure-là, à 11h. Donc on voit que le marché reste... Bon, il y a clairement une prise de bénéfice hein, puisqu'il y a quand même... On connaît les principaux risques que regarde le marché, notamment le risque inflationniste. Et puis il y a également quelques bonnes news qu'on va attendre, enfin que le marché anticipe éventuellement, c'est le rythme avec lequel la Fed va annoncer ses hausses de taux qui va peut-être un petit peu atténuer. Donc ça a poussé le marché à la hausse. Mais aujourd'hui, un peu plus l'inflation qui revient devant de la scène. Et notamment avec le rendez-vous de l'OPEP, vous voyez, où on va peut-être avoir une réduction de la production qui est le consensus attend 500 000, mais ça va peut-être être 1 million de barils. Et forcément, c'est des choses qui vont venir nourrir l'inflation et donc un peu cristalliser les craintes qu'on peut avoir de ce côté-là.
Voilà donc pour le sentiment de marché tel que vous le voyez. Puis il y a deux dossiers que vous aviez envie d'éclairer ce matin sur le marché. D'abord Trigano.
Trigano, oui, effectivement, je voudrais revenir un petit peu sur le dossier, faire un petit rappel très rapidement. Le 29 juin, on a eu la publication du chiffre d'affaires T3 qui était en forte décroissance. Il y avait également un pseudo-warning sur les châssis où la société indiquait qu'il allait avoir un manque à gagner de 2 à 3 000 châssis, enfin 3 à 4 000 même. Et du coup, il faudrait un peu mettre les choses un peu en perspective parce que 3 à 4 000 châssis, si vous partez sur un prix de vente de l'ordre de 52 000 euros, ça fait un manque à gagner de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un chiffre d'affaires total de plus de 3 milliards. Dans la foulée, le titre va décrocher de 10% et en termes de market cap, ça fait on a 200 millions qui sont évaporés comme ça sur cette crème de châssis. La semaine dernière, le 27 septembre, ils ont publié leur chiffre d'affaires qui est T4. Alors, effectivement, c'était en décroissance. Et lorsqu'on regarde le discours sur la saison 2023-2024, sur la partie châssis, il va y avoir un effet rattrapage. La société prend le taureau par les cornes et va clairement avoir un monitoring en direct auprès de ses fournisseurs et parallèlement à ça, va diversifier ses fournisseurs. Il y a Mercedes et Ford qui vont entrer peut-être un petit peu plus. Du côté de la demande, on regarde un peu, les premiers retours des salons sont très bons, avec une croissance à deux chiffres, et notamment, si on regarde la composante nouveau venu, on est en croissance de 40%. Mmh. Et juste un dernier point, notamment, parce que du coup, il faut mettre les choses en perspective aussi, sur la partie inflation, il va y avoir un effet prix de 5%, il faut avoir en tête que le consensus anticipe une croissance de 11% sur l'année prochaine, et c'est déjà pris par les 5% d'effet prix. Donc je viens de vous dire que le consensus, on peut peut-être avoir un ajustement à la hausse. Et donc, titre à jouer pour la publication du 29 novembre, ils vont publier leurs résultats annuels. Et nous, on reste très confiants sur ce titre avec un target price à 158 euros.
Voilà donc ce cas Trigano. Et puis, vous vouliez dire un mot de Kaufmann également.
Kaufmann, pour revenir sur la publication d'hier, sur la production qui est en croissance avec un high single digit. Bon, c'était un petit peu inférieur à nos attentes. Ce que je vois, c'est lorsqu'on regarde un petit peu plus en détail et qu'on affine un peu plus l'analyse, notamment sur les réservations qui étaient en baisse. Il faut savoir que sur la partie réservation, c'est la partie bloc qui est quand même pas mal en décroissance. Et cette partie bloc, c'est surtout des logements type sociaux. Et ça, c'est assez dilutif sur les marges, puisque nous, on estime que les marges sur la partie sur les blocs, c'est l'ordre de 5 à 7%, alors que sur les particuliers, on est plutôt sur des marges entre 8 et 9%. Donc, dans la foulée, la société revoit à la baisse ses guidelines de croissance de chiffre d'affaires, qui était de l'ordre de 5%, qu'elle revoit à 2%. Pour autant, elle maintient un discours sur les marges qui serait aux alentours de 7%. Donc, on voit qu'on a un effet mix qui est plutôt favorable. Et lorsqu'on regarde également, il y a deux éléments aujourd'hui qui peuvent être des catalystes sur le dossier. C'est notamment Austerlitz. Austerlitz, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires sur 4-5 ans. C'est une marge d'EBIT de l'ordre à 15-20%. Donc, toujours avoir quelques mesures en tête, c'est 150 millions à 200 millions d'euros sur ces 5 ans, rapporter une market cap qui est aux alentours de 500 millions. C'est quand même déjà assez important, c'est game changing à l'échelle de Kaufmann. Et surtout, la bonne news vient du fait que vous avez le rapporteur public du Conseil d'État qui a conclu le mal fondé, vous savez, du dernier recours. Et ça veut dire que dès 2022, donc en octobre 2022, si on a une réponse positive de l'État, ça fait 300 millions d'euros en plus sur un chiffre d'affaires hors Austerlitz de 1,3 milliard. Et dernier point aussi à noter, c'est surtout la partie un peu spec, pas surtout, mais il y a Promogym qui continue de faire des achats, qui fait des déclarations depuis l'été, et ça peut venir nourrir un peu la suspecte. Sur tout ça, sur fond de valorisation qui reste quand même assez basse au regard de la qualité du dossier, et donc on reste à l'achat avec un target du coup. Je vous dis ça tout de suite parce que je l'ai plus sous les yeux. On a un target qui propose un upside de 53%. Donc, je vous laisserai faire le calcul.
Merci beaucoup, Nitin. Nitin Kedna, donc, porte-en-part ce matin avec nous depuis Nantes, donc, le marché parisien, qui est autour des 6000 points, 5999. On perd 0,66%. Tout de suite, l'info éco et Stéphanie Collot.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé entre Ronan Blanc et Philippe de Cholet. Bonjour messieurs, merci d'être au rendez-vous en plateau. Philippe de Cholet pour Matignon Finance, Ronan Blanc pour Financière Arbevel. Comment vous regardez les choses, Philippe? Est-ce que vous vous dites, ben voilà, 6000 points, les mauvaises nouvelles sont déjà dans les cours, ou au contraire, 6000 points, attention danger?
Il y a quand même une baisse qui a été importante depuis le début de l'année. On est quand même à près de 20% de baisse un peu partout. Donc, une bonne partie des mauvaises nouvelles est déjà quand même dans les cours. On a des niveaux de valorisation particulièrement en Europe qui sont redevenus assez raisonnables, parfois même ridiculement bas. Donc, je considère quand même qu'une bonne partie du chemin a été parcourue. Maintenant, vous dire qu'on est vraiment sur les points les plus bas, non, probablement pas. Il y a encore peut-être un potentiel de baisse de 5-6%, c'est pas exclu. Ça dépendra beaucoup, bien sûr, de l'impact de la hausse des taux sur l'économie. Autant on a une certaine clarté sur le chemin que vont suivre les banques centrales, puisqu'elles l'annoncent assez longtemps à l'avance, autant il est compliqué, à ce stade en tout cas, d'avoir une vision précise de ce que seront les conséquences de cette hausse des taux sur l'économie. Donc on peut avoir peut-être effectivement une publication de résultats, peut-être plus aux États-Unis encore que, peut-être un peu inférieure à ce que l'on attend. D'après ce que l'on lit ici et là, enfin en tout cas ce que les analystes écrivent, il semblerait que pour les résultats du troisième trimestre, les BPA, les bénéfices par action, soient attendus en progression d'à peu près 30%. Mais sur les 30%, si on retire l'impact énergie, qui compte presque pour 20, ça fait grosso modo une dizaine de pourcents. Voilà. Donc, si c'est cela, si c'est confirmé, les marchés peuvent, je pense, se stabiliser au niveau actuel.
Et vous, Ronan, comment voyez-vous les choses? Est-ce que les mauvaises nouvelles sont déjà en les cours ou pas complètement?
Ce qui est symptomatique, c'est la réaction d'hier, qui montre juste le niveau de stress et d'attente des investisseurs, avec un premier mouvement un peu constructif des grandes banques centrales, hein, la Banque Centrale Australienne en l'occurrence. Et en fait, on est en train de basculer dans une perception où les risques sur la croissance, les mauvaises nouvelles qui commencent à s'accumuler sont finalement des bonnes nouvelles pour les marchés, parce que ça veut dire que les banques centrales, inévitablement, à un moment donné, vont être obligées de décélérer. Donc on a eu un premier indicateur hier avec cette décision de cette banque centrale australienne de moins monter ses taux, alors même que le pic d'inflation dans ce pays est plutôt devant nous. Donc on est, voilà, c'est cette fameuse détermination là, qui est celle de la BCE, qui est celle de la Fed, où ils surjouent un peu leur rôle après cette lourdement trompée il y a un an, bah finalement on se rend compte que on commence à voir les fruits de ce ralentissement. On va peut-être en débattre un petit peu après, mais il commence à avoir une inquiétude sur le niveau de consommation. Alors on peut pas comparer les États-Unis avec l'Australie parce que les ménages australiens sont beaucoup plus endettés, hein, c'est 120% du PIB d'un côté contre 80% de l'autre, donc une extrême sensibilité aux variations de prix de l'immobilier. Mais clairement, le refroidissement du secteur logement, que ça soit dans n'importe quel pays occidental, mais notamment l'Australie et les États-Unis, est en marche, avec le corollaire et l'effet de destruction sur les intentions d'achat. Et le noyau dur de l'inflation, qui était ce fameux niveau d'emploi où il y avait des pénuries quasiment dans tous les secteurs, commence aussi à se dénoyauter. Et ça, c'est plutôt une bonne surprise. Je vous invite à lire l'article du Financial Times sur Uber, où finalement, depuis la crise sanitaire, ils étaient en pénurie de chauffeurs. Ouais. Et là, ils sifflent la fin de ce risque-là et se sentent beaucoup plus confortables. Donc voilà, on commence à accumuler ce type de signaux et c'est ça que nous, on cherche à appréhender pour voir si on est capable de s'inscrire un peu plus dans la durée sur ces marchés.
Bon, il y a des signaux, effectivement, qu'on observe avec intérêt, et il y a notamment ce qui s'est passé, alors, à travers le Royaume-Uni, mais on va voir si ça n'est qu'un problème britannique ou pas, sur le marché obligataire ces derniers jours. Alors, c'est moins votre genre de beauté, mais malgré tout, j'imagine que vous avez regardé un petit peu ce coup de Trafalgar sur la question britannique.
Oui, enfin, la question britannique, elle est vraiment spécifique au Royaume-Uni, pour le coup. Hein. Ça n'est que la conséquence d'un plan de relance budgétaire massif, largement donc qui repose sur des baisses d'impôts, et qui a été critiqué de toutes parts à l'échelon international dès sa publication. Donc, il n'est pas étonnant qu'effectivement, il y ait eu une crise de défiance, que la Banque d'Angleterre ait dû intervenir massivement, au risque, bien sûr, on le sait tous, que les taux remontent rapidement et beaucoup plus que ce qui était prévu au départ. Donc, il y a quand même un phénomène qui est spécifique au Royaume-Uni qu'on ne peut pas extrapoler au reste de l'Europe continentale, en tout cas, ça c'est une certitude. Maintenant, sur les taux et sur les obligues, la question effectivement est très pertinente parce que on arrive probablement bientôt proche d'un niveau où on pourrait remettre une poche obligataire dans les portefeuilles.
Comment vous regardez-vous ce qui s'est passé sur ce marché obligataire, Ronan ?
Alors, je suis d'accord sur la partie britannique, c'est assez auto-centré, donc c'est un peu dans l'ABCDR de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, ils ont dit, nous on va faire ça. Maintenant,
donc,
c'est aussi
une piqûre de rappel.
Voilà, c'est un peu l'idée. Maintenant, c'est aussi un point de vigilance pour les Européens, justement, éviter de rentrer un petit peu dans ces cas de figure de relance un peu trop facile. On a changé de décennie. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec des niveaux de taux et de refinancement beaucoup plus élevés et aussi un niveau d'inflation qui, certes, va baisser, mais va atterrir sur un niveau aussi plus élevé. Donc, il va falloir faire des choix dans les dépenses. Donc, c'est vrai que c'est un vrai casse-tête. Maintenant, on a aussi en tête cette espèce de transfert de risque des entreprises vers les États. On le voit avec tous les plans d'accompagnement, entre guillemets, sur cette crise énergétique. Donc oui, il faut revenir sur la dette, mais plutôt sur la dette d'entreprise, parce que le niveau de volatilité sur les dettes souveraines reste toujours tout aussi élevé. Et ces entreprises vont être accompagnées. Donc le ralentissement économique est devant nous, on le nie pas. Il sera sans doute féroce aussi en Europe, mais les entreprises européennes sont rentrées dans cette crise beaucoup mieux armées que par le passé. Elles vivent des crises du siècle quasiment tous les 4 ans, donc elles essaient de s'adapter et de se prémunir contre d'éventuels autres chocs en consolidant et en maintenant un niveau de liquidité très important au bilan. Et c'est ça qui va leur permettre de traverser ces mois un peu difficiles qui sont encore devant nous.
Mais donc pas de problème un problème spécifique Royaume-Uni, mais qui ne permet
pour l'instant ne s'étend pas, ne se diffuse pas trop vers chez nous. Mais la vigilance est quand même de mise parce que la BCE, pour l'instant, continue à acheter des dettes sur le marché secondaire. Donc continue quelque part à accompagner l'endettement des entreprises, enfin l'endettement des gouvernants. Mais on sait que ce process-là va se refroidir dans la durée. Après, voilà, le côté problématique, c'est qu'ils cherchent à dégonfler une bulle nos banquiers centraux qu'ils ont quand même largement contribué à alimenter, donc donne un peu l'image de pompier pyromane. Il faut qu'il se détache un petit peu de ce mauvais rôle et revienne un peu plus à certaines décisions pragmatiques. Et encore une fois, la Banque centrale australienne, dans ce sens-là, est plutôt un bon indicateur.
Est-ce qu'il y a justement de cet épisode britannique, même si on a bien compris dans vos regards croisés qu'il y avait un problème spécifique britannique, est-ce que malgré tout, il y a des enseignements que les autres banques centrales doivent tirer de cet épisode, selon vous, Philippe ?
En tout cas, pour ce qui est de l'Europe continentale, je n'ai pas l'impression que la politique de relance budgétaire massive, assise sur des baisses d'impôts, soit à l'ordre du jour. Hein. C'est quand même plutôt, a priori, le contraire qui est en train de se mettre en place. Contrairement à l'Angleterre, on est également très focalisé sur les plans d'accompagnement. Hein. On l'a bien vu avec le bouclier tarifaire et peut-être d'autres mesures encore à venir. On le verra bien. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de parallèle possible à ce stade. En tout cas, entre la politique économique de Madame Truss et puis celle qui est déjà mise en œuvre en Allemagne, en Italie, en France. Je crois pas. Il est un peu tôt, si vous voulez, aujourd'hui pour se prononcer sur ce que sera réellement la politique suivie au cours des prochains mois, mais j'attends pas, moi, de modifications majeures, si ce n'est plutôt, au contraire, je vous dis, une politique d'accompagnement renforcée si besoin était.
Vous avez-vous, Ronan, identifié ou pas des leçons qui pourraient servir dans cette crise hyper rapide à d'autres banques centrales, de bêtises à pas faire ou de points d'attention à...
Déjà, on est plus fort à plusieurs. Hein. C'est vrai qu'on a l'avantage du nombre. Hein. C'est toujours plus difficile d'attaquer une monnaie quand on est plusieurs à la partager que quand on se retrouve un petit peu isolé sur une île. Donc voilà, ils étaient prévenus. C'est un choix qui a été fait de leur part de s'éloigner du bouclier européen. Donc heureusement, il faut aussi se satisfaire de cette situation. On a souvent la critique un petit peu facile sur les instances européennes, mais le fait est qu'elles sont quand même très protectrices. Et que la BCE joue ce rôle quand même, même si elle est sous le feu de la critique des fois pour de bonnes raisons, d'accompagner dans cette période difficile et d'éviter qu'il y ait un scénario à la britannique avec des taux qui corrigent très très fortement sur une période très très concentrée. Donc voilà, je pense qu'on l'évitera, mais encore une fois, c'est une piqûre de rappel sur le fait que aujourd'hui il faut faire les bons choix d'investissement. Et surtout, pas tirer des ficelles trop faciles, comme ça a été fait encore récemment par les Britanniques.
Et notre banque centrale européenne, justement, on a eu Olli Rehn qui nous a dit il va falloir être dynamique, ce sera 50, 75 ou autre chose, sous-entendu encore là, une incantation vers les 100 points de base. Ça veut dire que la banque centrale européenne, elle est contrainte et forcée de suivre la cadence, la séquence imposée par la Fed.
Non, pas nécessairement au même tempo, pas au même rythme. En revanche, oui, la direction, on la connaît, c'est la même. Il y aura effectivement une hausse des taux assez régulière encore sur les 6-10 prochains mois en Europe, c'est certain. Mais on part de beaucoup plus loin aussi que les États-Unis. Donc, je pense que l'objectif, d'un 2,5-3% probablement sur les taux directeurs est quelque chose de plausible à horizon quelques mois. Maintenant, il y a débat quand même au sein du comité des gouverneurs. Donc, il s'agit de trouver le plus petit dénominateur commun. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils feront tout pour essayer quand même de préserver la croissance et éviter une récession sévère. Et là, tout dépendra effectivement aussi beaucoup encore de l'évolution des prix de l'énergie.
Il faut y aller à marche forcée ?
En fait, la fenêtre de tir pour la BCE est très étroite parce que le ralentissement est déjà bien entré. Donc, ils sont obligés de marcher dans les pas de la Fed parce qu'il y a cette fameuse parité de devise qu'il faut aussi appréhender.
Ouais, c'est ça. Et il faut laisser l'euro aller à l'euro.
Notre problématique, c'est que les mots inflationnistes américains n'ont rien à voir avec les Européens. On sait tous que ce choc énergétique contribue assez fortement à la hausse de l'inflation en Europe. Donc, avoir une politique finalement trop monétaire trop laxiste, c'est laisser la porte ouverte à une poursuite de la baisse de l'euro et donc à une facture énergétique des prix importés qui continue de s'élever. Donc en fait, ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de marcher dans les pas de la Réserve fédérale. C'est pour ça qu'on se focalise peut-être à tort ou à raison beaucoup sur les futures décisions de la Fed, parce qu'elle donne un petit peu le là, y compris pour la BCE dans les prochains mois. Et c'est en ce sens qu'on commence à percevoir quand même des éléments de détente dont certains qu'on a évoqués et qui vont continuer à s'alimenter. Les enquêtes auprès des industriels américains avec les composants de prix qui sont revenus largement sur les niveaux pré-crise sanitaire, les emplois à pourvoir, on avait frôlé les plus hauts historiques autour des 12 millions. Il y a encore beaucoup d'offres d'emploi, mais ça baisse quand même assez rapidement. Mmh. Encore une fois, c'est la dérivée première qui importe.
Mais l'Europe, elle est aussi confrontée à des problèmes internes qui peuvent peut-être introduire des coins entre les partenaires de ce bloc que vous louiez aussi tous les deux face aux problèmes britanniques. Enfin, je vois, il y a le cas italien. Alors, vous me disiez en hors antenne que c'était pas très significatif, mais il y a aussi le cas allemand avec ce plan de 200 milliards qui fait grincer des dents. Enfin, on voit que la fragmentation, elle se fait pas a priori que sur les taux.
Non, c'est vrai, mais à chacun selon ses moyens. L'Allemagne est encore un pays riche qui dispose d'excédents colossaux. Et s'ils ont pu mettre 100 milliards d'euros sur la table pour moderniser leur armée et 200 milliards concernant le bouclier tarifaire énergétique, c'est qu'ils en ont les moyens. C'est un effort important, c'est vrai. Mais on ne peut pas aujourd'hui, effectivement, mettre tous les pays de la zone euro sur le même plan. En Italie, on avait toutes les raisons de craindre, effectivement, l'arrivée au pouvoir de Mme Meloni. Mais sur la question économique, elle affiche clairement son credo européen et restera sans doute dans les pas de ce que Mario Draghi a fait avant elle. Donc je pense que pour ce qui est des quatre grandes économies, en tout cas de la zone euro, il y a quand même une vision commune des actions à mettre en œuvre. Et je vous dis, c'est un savant mélange entre à la fois, bien sûr, hausse des taux, mais aussi accompagnement dans la mesure du possible, sachant que, n'oublions pas, on a quand même aussi une protection sociale en Europe qui n'est pas celle des États-Unis, et en France, par exemple, on sait que la redistribution sociale assure peu ou prou, normalement, chaque année, entre 0,2 et 0,3% de croissance du PIB par trimestre, hein, par le seul biais de la redistribution sociale. C'est un phénomène qui n'existe pas aux États-Unis. Donc, on a quand même des amortisseurs qui permettront sans doute de traverser la crise mieux que d'autres zones.
Qui nous handicapent souvent au moment de la reprise, mais qui nous évitent de chuter violemment au moment de la crise.
Nos amis italiens, ils sont pragmatiques hein, pour l'instant. Ils savent pertinemment que le couperet des taux de refinancement est juste au-dessus de leur tête. On a souvent parlé d'un niveau à partir duquel la Banque Centrale Européenne se sentirait obligée d'intervenir pour protéger l'Italie. Bon, ce niveau a été traversé assez facilement, ponctuellement. Donc on sait pertinemment que voilà, l'œil des marchés est quand même focalisé sur le prochain budget italien et fort à parier qu'il ne sera pas non plus trop excessif et que le pragmatisme va parler. Après, sur la solidarité européenne, c'est vrai que on sent qu'il y a des tensions franco-allemandes assez fortes, parce que sur certains sujets, notamment énergétiques, la solidarité à sens unique, ça commence un petit peu à bien faire. Et c'est vrai que j'ai l'impression, sans trop fanfaronner, que les Français jouent quand même un petit peu le jeu, notamment sur l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne, et je serais curieux de savoir à combien ils revendent le gaz que nous, on leur fournit derrière.
Ouf. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait sur les portefeuilles? On se gave de défensive, on allège, on...
Je pense que le maître mot, c'est quand même la diversification. Revenir franco sur les actions en ce moment, c'est sans doute un tout petit peu tôt. Encore qu'il y ait un certain nombre, je vous l'ai dit tout à l'heure, de secteurs et de valeurs surtout, qui offrent au niveau des... qui présentent des niveaux de valorisation qui sont réellement vraiment aujourd'hui attractifs. J'ai le secteur automobile en tête, hein, il y en a d'autres, mais on est vraiment arrivé parfois à des niveaux de price earning ridicules, eu égard quand même à la situation financière assez saine de ces groupes. Donc, il y a des points d'entrée qu'on peut saisir. En revanche, il convient encore d'être assez prudent parce que on ne mesure pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, encore très précisément l'impact réel de ce que représentent ces hausses de taux qui ont été décidées ces derniers mois. On va commencer à le voir dans les résultats, mais c'est encore un peu tôt. Il sera sans doute très très contrasté d'un secteur à l'autre. Il y a des secteurs qui vont beaucoup plus souffrir que d'autres. Donc je pense qu'il convient d'être prudent, de privilégier le stock picking et de rester quand même encore dans une posture défensive jusqu'à nouvel ordre.
Renan Alors, même chose des défensives ou alors sur vos obligations quoi, du portage.
Nous on aime bien l'élément intermédiaire dans les classes d'actifs risquées qui est le crédit, notamment en Europe où finalement le scénario du pire est déjà bien entamé, bien pricé. On n'a pas de mur de dette comme on a pu avoir lors des crises précédentes. Donc souvent, on me parle d'un risque de refinancement où les entreprises, par définition, quand elles vont devoir rembourser leurs dettes, vont devoir émettre à des niveaux plus élevés. Mais encore une fois, faut pas oublier que ces entreprises-là ont largement profité des taux bas pour se refinancer et rallonger leur maturité moyenne de leurs dettes. Donc on n'a pas de mur de dette. Elles peuvent attendre que le plus gros de la crise soit passé. Et sur des entreprises de qualité, on peut trouver à des maturités 5-6 ans du 8 de taux sans pour autant prendre un risque très très démesuré. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on met en avant. Et sur la partie action, les valeurs aussi de croissance ont été quand même très largement survendues dans un contexte de hausse de taux généralisée. On ne renie pas là encore une fois. Mais si on est d'accord avec le diagnostic que finalement les étaux et tout ce qui a amené à la crispation sur le prix et sur l'inflation est en train de progressivement se détendre, on devrait s'approcher d'ici quelques mois du pic de resserrement monétaire, et donc le marché l'anticipera un petit peu. Et donc c'est sans doute ces valeurs avec des perspectives sur les résultats qu'il faudra reprivilégier et sur lesquelles il faudra être attentif lors des prochaines publications de résultats.
Merci à tous les deux d'avoir participé à ce regard croisé. Ronan Blanc, financière Arbevel, et Philippe de Cholet pour Matignon Finance. Très bon retour dans vos maisons respectives. Le marché parisien, lui, est toujours en train de titiller les 6000 points. On va voir ce qu'en pense Gilles Santacreux dans un instant. On perd 0,65%.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file tout de suite sur les marchés pour prendre le pouls technique de cette séance autour des 6000 points. C'est le seuil important, Gilles Santacreux.
Alors, au niveau du CAC 40, le seuil des 6000 points est plus un seuil psychologique que technique. J'avais identifié une zone horizontale sur laquelle on a buté ce matin, c'est la zone des 6035 points. On a fait 6034,93 au plus haut, donc on peut dire qu'on est dans l'épaisseur du trait et que l'on est venu tester cette zone. Alors, ce qui est surtout intéressant lorsque l'on fait de l'analyse technique, c'est de trouver les récurrences de marché. Et sur la séance que l'on a connue hier, donc avec ce gap de rupture par rapport à la précédente dynamique baissière, et l'amplitude haussière que nous avons connue ressemble beaucoup à la séance en intraday que nous avons connue le 19 juillet. Lorsque l'on regarde ce qui s'est passé le lendemain, le 20 juillet, on a eu une petite phase de consolidation. Et encore une fois, le 19 juillet, on était monté sur des anticipations de hausse des taux qui allaient se ralentir. On avait la BCE qui allait intervenir deux jours après, de mémoire. Et donc, on est un petit peu dans ces mêmes attentes. Par rapport à l'anticipation que nous avons et à la hausse que nous avons connue hier, on s'attend à ce qu'il y ait une accalmie un petit peu sur l'inflation. Ça sera précisé la semaine prochaine, puisque nous aurons des chiffres d'inflation la semaine prochaine. On attend les chiffres du chômage, donc on aura les ADP cet après-midi et le NFP vendredi. Ces deux chiffres, s'ils montraient un changement, c'est-à-dire si on avait des chiffres de l'emploi qui se détériorent un petit peu et une inflation qui commençait à ralentir, les investisseurs se diraient, tiens, on est dans une anticipation où effectivement les banques centrales pourraient commencer à ralentir un petit peu dans leur hausse de taux et ça pourrait un petit peu calmer les marchés. On est exactement dans cette même configuration. Techniquement, donc, au niveau des de mes algorithmes, on avait détecté déjà des possibilités de retournement à partir du 29, c'est-à-dire à partir de jeudi. J'en avais fait part d'ailleurs dans mon analyse et on l'a actuellement, on est sur une impulsion qui peut nous donner une poursuite de mouvement. On reste toujours actuellement dans une dynamique baissière. La zone des 6035 points est une résidence intermédiaire. Et tant qu'on ne casse pas cette zone, on est sur des niveaux qui restent baissiers. Pour vraiment sortir la tête de l'eau, il faudrait repasser à la hausse la zone des 6143 points pour combler le gap du 16 septembre. Et en même temps, on a un retracement de Fibonacci, 61,8% de la précédente phase de baisse, qui en cas de cassure nous donnerait beaucoup plus de probabilité de remonter jusqu'à cette zone des 6400 points. Les niveaux d'invalidation de ce mouvement haussier sont relativement bas, puisqu'il faudrait venir combler le gap que l'on a ouvert hier, c'est-à-dire 5804-5852, pour venir annuler, si j'ose dire, l'impulsion que nous avons connue. Donc pour l'instant, on peut s'attendre à une poursuite du mouvement haussier, certes moins puissant que ce que nous avons connu hier, mais hier c'était le mouvement d'impulsion initial, et bien entendu, il faudra être attentif, aux chiffres du chômage, donc notamment le chômage américain, donc aujourd'hui avec les ADP et les NFP vendredi, et les chiffres de l'inflation qui seront diffusés. On a des chiffres de l'inflation assez importants la semaine prochaine du côté des États-Unis.
Eh bien voilà quelques idées à avoir en tête autour des caractéristiques techniques de ce marché. En tout cas, pour le moment, le CAC est à 6001 points, mais il baisse de 0,63%. Merci beaucoup, Gilles. Gilles Santacreux, donc, boursicoté.com, qui nous accompagne ce matin. Tout de suite, on continue à vous donner un maximum de conseils.
BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion.
Et on accueille Nathalie Arabko. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Ascensia Business School. Comment voyez-vous la situation économique actuelle si on la regarde dans le cadre d'un investissement ?
Alors, la situation est très compliquée, en effet. Donc, on parle toujours des retombées du conflit russo-ukrainien qui accélère toujours la baisse de la croissance mondiale. Donc, on va parler de la guerre qui fait grimper les prix aujourd'hui. Donc, surtout, on parle des matières premières. Donc, les prix sont vraiment très, très hausses. Après, ça augmente les perturbations que même de l'improvisionnement accroît l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Et on va dire aussi qu'il y a des divers facteurs de risque qui pourraient aggraver davantage les perspectives. Là, on parle notamment des tensions géopolitiques et aussi on parle en fait de l'insécurité alimentaire très accrue à ce moment. Donc, ces facteurs de risque soulignent aujourd'hui la nécessité d'un choix bien réfléchi chez les investisseurs en réponse à une instabilité. Par conséquent, moi, à mon avis, je pense que les investissements dans l'agriculture pourraient être une valeur refuge.
Alors, comment y investir justement intelligemment ?
Alors, très très bonne question. On va dire que les prévisions actuelles indiquent que le prix des matières premières agricoles pourrait rester à des niveaux historiquement élevés pendant assez longtemps. Cela veut dire que si on parle de l'agriculture, la volatilité pourrait rester élevée avec des prix fluctuants en fonction de la saisonnalité. De la culture en question,
bien sûr.
Par conséquent, l'investisseur est obligé d'obtenir des informations un jour afin de choisir correctement d'abord les terres et sous quelle culture il faut les utiliser. Donc, il faut analyser les rendements de cultures agricoles clés sur 5 à 10 ans.
Oui, le voir sur longue période. Ouais.
N'est-ce pas ? Identifier les régions les plus performantes pour investir dans l'agriculture. Ça, c'est pour moi, en fait, je pense que c'est la priorité dans l'investissement, en fait, dans l'agriculture. Choisir bien, en fait, la région, choisir bien la terre.
Est-ce qu'il y a d'autres facteurs importants, pour ne pas dire clés, qui sont à prendre en compte ?
Oui, moi, je pourrais nommer au moins 4. Donc, d'abord, la première chose, c'est le prix de la terre. Un prix bas, en fait, c'est une très mauvaise ligne directrice lors du choix d'un terrain. Pourquoi ? Parce que malgré les sols fertiles, chacune des zones climatiques a son propre ensemble de cultures qui poussent mieux. D'ailleurs, le prix de la terre est formé en fonction de la qualité des cultures très rentables qui poussent. Par conséquent, si le prix des terres n'est pas très haut, c'est-à-dire qu'on parle des affaires intéressantes, très probablement, en fait, le climat local n'est pas très propice, en fait, à la croissance des cultures très rentables et orientées vers l'exportation. C'est ça ce qui nous intéresse, comme le blé, l'orge, le colza, le soja. Aussi, le fait que le propriétaire puisse diversifier ses cultures dans le temps joue un rôle également, en fait, dans la baisse du prix. Il y a des régions, en fait, où vous pouvez cultiver les cultures et obtenir les mêmes bons résultats avec plusieurs cultures. Mais il y a des régions où vous pouvez cultiver peut-être une,
plus limitées,
deux, ouais. Et c'est tous les ans. Et ce n'est pas très intéressant. Deuxième chose, c'est le climat. Donc, le coût du terrain variera en fonction de la zone climatique. Et les territoires avec un climat stable et qui peut aussi proposer un ensemble polyvalent de cultures à cultiver seront les plus chers, bien sûr. Une analyse des données sur le rendement et la superficie récoltée nous permet de conclure que la région est intéressante et satisfaisante en termes de diversité de cultures. Logistique, c'est très important. Troisième chose, placez vos actifs à proximité de vos cultures plantées pour économiser des
sous. Ben évidemment.
Il est préférable pour une entreprise engagée dans la transformation de produits agricoles ou, par exemple, également, en fait, l'entreprise qui peut avoir des installations de transformation, il faut unir les deux.
Ouais, être au plus près, bien. Enfin, entre guillemets, au plus près des cultures.
Bien sûr, cela va réduire le coût logistique et c'est hyper important actuellement, compte tenu des prix, en fait,
du transport, du carburant.
Du transport, d'énergie, etc. Quatrième chose, le changement climatique. Le changement climatique affecte les valeurs foncières dans différentes zones. Bien sûr, lors de la planification des investissements dans l'agriculture, le changement climatique doit être pris en compte et on ne peut pas faire autrement. Les zones qui avaient des rendements élevés, par exemple, il y a 10 ans, peuvent devenir très sèches actuellement. Et face au changement climatique, il faut se fier seulement et uniquement aux recherches récentes.
Voilà donc les 4 éléments à avoir en tête, Nathalie Rabko. Vous nous avez parlé de quelques cultures. Quelles sont aujourd'hui ces cultures agricoles les plus demandées ? Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces cultures, finalement, avant de se décider et d'investir ?
Alors, on regarde toujours, quand on parle de ce choix, on regarde toujours la conjoncture. Selon la conjoncture actuelle, je peux proposer au moins 6. Donc là, je propose le blé de verre. Le blé de verre est une culture résistante au froid. Ça, c'est important. Pour le blé de verre, vous devez choisir le champ ou les pois où le soja a été planté auparavant. Et le sol pour le blé a besoin d'engrais minéraux organiques. C'est pour cela. Mais c'est une culture résistante. Encore une fois, c'est un très bon choix. Le maïs est un bon précurseur pour nombreuses cultures. L'utilisation économique de l'humidité et également en fait, l'utilisation productive des pluies estivales permettent au maïs de produire des rendements très intéressants et satisfaisants, ouais, même durant les années très très sèches. L'orge d'hiver n'est pas aussi rustique que le blé d'hiver, mais avant le semis, les graines d'orge doivent être traitées avec beaucoup de préparation très efficace. Et après, en fait, ça passe tout seul. Le tournesol est très peu exigeant et en même temps, c'est un très très bon prédécesseur pour les cultures céréalières. Lors du semis de tournesol, ce qui est très important, c'est une mesure nécessaire à prendre, c'est l'application d'engrais.
D'accord.
Le colza d'hiver, très profitable, une culture qui peut vraiment apporter, un peu exigeant. Par exemple, les pois, le blé de verre et le seigle sont considérés comme ses meilleurs prédécesseurs. Et considérant que les graines de colza d'hiver sont petites, la culture du champ doit inclure le nivellement du sol.
D'accord.
Et la dernière chose, pour moi, c'est le soja. Les pommes de terre, les betteraves, le blé de verre sont considérés comme les meilleurs prédécesseurs du soja. Bon. Voilà.
Voilà quelques idées à avoir en tête. Juste, comment est-ce qu'on analyse une matière agricole en tant qu'investissement?
Alors, prenons un exemple. Par exemple, prenons l'exemple du blé. On fera notre analyse sur les 8 paramètres incontournables. Premier paramètre, la saisonnalité des prix du blé. Alors, les prix du blé en fait, ont tendance de baisser de printemps à la récolte de juillet.
D'accord.
Et tous les marchés céréaliers suivent un cycle régulier de semis et de récolte. Alors, quelles que soient les conditions météorologiques, ça ne changera pas. Le prix de l'ancienne récolte reste élevé jusqu'à ce que les prévisions de la nouvelle récolte arrivent et soient connues. Et par conséquent, le prix augmente à mesure que l'offre approche de son niveau le plus bas de l'année en cours. Alors, deuxième chose et deuxième paramètre, le niveau de corrélation du blé avec sa saisonnalité. C'est très important parce que la dynamique saisonnière des prix du blé montre une faible corrélation entre les actifs financiers. Donc, les autres matières premières agricoles comme le soja, le coton, le sucre représentent une forte corrélation saisonnière. Par exemple, le porc a un indicateur de 0,97, tandis que le blé a un indicateur de 0,37.
Ah oui.
Alors, plus l'indicateur et bas, plus le modèle de mouvement annuel des prix en fonction de la saison est faible. Donc, cela veut dire que le blé, c'est un très très bon choix. Le troisième paramètre, c'est les prix de céréales sur les marchés à terme. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Les prix à terme fluctuent en fonction de la taille de la demande mondiale, de l'offre et du coût de production. Le climat, bien sûr, quatrième paramètre. Mm-hmm. Si le temps était sec et chaud, par exemple, la récolte sera très rapide. Un climat trop sec rend impossible la réussite de deux cultures, donc il faut choisir et c'est pour ça qu'il faut récolter de manière très efficace au moins une culture. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'il y a d'autre? La récolte, cinquième paramètre. De sérieux retards dans la plantation peuvent réduire la superficie cultivée. Il y aura alors moins de récolte et une offre réduite.
Évidemment.
Les volumes de stock, très important. Si les stocks mondiaux augmentent ou excédentaires, cela entraîne une surcharge des installations de stockage et une baisse du coût de céréales. Donc, si les stocks baissent, les prix restent élevés et continuent d'augmenter. Donc, on analyse bien, en fait, la situation sur les stocks mondiaux. Et le septième paramètre, je pense que le plus important, c'est le coût des engrais. Ça, c'est de l'actualité.
Et on l'a vu très nettement dans cette crise-là.
Exactement. Donc, si les prix des engrais sont tendance, les prix des produits agricoles, bien sûr, vont augmenter. Il faut juste comprendre que les matières premières affectent les prix des engrais. Cela veut dire, un exemple, la hausse des prix du gaz naturel entraîne une réduction généralisée de la production d'ammoniac et une hausse des prix de l'ammoniac, qui est une première, qui est une matière première
pour les engrais. Ouais.
Très important pour les engrais azotés. Cela veut dire que tout est lié. les engrais azotés sont très importants, par exemple, pour tout type de culture, mais la hausse des prix de l'ammoniac et du soufre peut affecter aussi les engrais phosphatés. Et les engrais phosphatés sont très importants pour les fruitiers. Donc cela veut dire que c'est un marché qui fonctionne en fait dans l'ensemble. Et c'est pour cela qu'il faut suivre.
On ne peut pas regarder que l'un des deux points.
Exactement, les
tout,
prix de tous les engrais.
Merci beaucoup, Natalia. Natalia Rabko, donc, Ascensia Business School, pour un point très complet sur ses investissements agricoles. Le marché parisien lui reste pour le moment assez hésitant. Ce sont les 6000 points qui sont en jeu. On est juste en dessous pour le moment, 5981 points, et on baisse de 0,96%. Tout de suite, on s'intéresse à la sélection de BFM Patrimoine.
BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
Et deux de nos gérants en ligne, l'une depuis Aix-en-Provence, Amandine Gérard, à la Financière de l'Arc. Bonjour Amandine.
Bonjour Cédric.
Et l'autre depuis Nantes, Thibaut François, depuis Fastéa Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric, bonjour Amandine.
Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. D'abord, votre regard sur, je sais pas, sur ces 6000 points, sur ce marché, sur la façon dont vous percevez que les bonnes ou les mauvaises nouvelles sont bien dans les cours ou pas encore complètement. Amandine, comment voyez-vous les choses ?
Alors, je pense qu'il est important de se focaliser sur la séance d'hier, hein, puisque les marchés ont pris plus de 4% hier.
Vous préférez la hausse, quoi.
Et non, et de préciser aux auditeurs, justement, que bah, cette hausse, elle est purement liée à ce qu'on appelle les produits synthétiques, hein, c'est-à-dire tout ce qui est rachat de vente à découvert, majoritairement de la part des hedge funds, donc des fonds spéculatifs, et du fait que les taux ont fortement reculé sur les journées de lundi et mardi. Donc, quel est le message ? Le message est clair. Dès que les politiques monétaires des banques centrales se desserreront, les rebonds sur les marchés actions seront très violents. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de raison fondamentale à ce rebond d'hier, si ce n'est, on en a discuté la semaine dernière avec François, notamment que les niveaux de valorisation, particulièrement sur les marchés européens, deviennent attractifs.
Voilà donc votre vision. Même chose, Thibault, est-ce que vous pensez que toutes les mauvaises nouvelles, entre guillemets, sont dans les cours ou pas complètement ?
Bah, y en a quand même beaucoup qui sont dans les cours. Maintenant, le marché, il attend une stabilisation des taux. Aujourd'hui, on est parti encore pour une hausse des taux d'ici la fin d'année pour la Fed. L'inflation a toujours du mal à reculer. Est-ce qu'on a atteint les points hauts d'inflation ? C'est toujours la grosse question qui reste en suspens. Mais en tout cas, on price un scénario du pire qui est assez incroyable pour les prochains trimestres. Sur beaucoup de secteurs, d'ailleurs, on est plus sur une analyse binaire qu'on aurait pu avoir ces dernières années avec le value ou la croissance. Là, c'est un petit peu tous les secteurs qui sont tapés et on se retrouve avec des niveaux de valorisation qui sont pas normales, ou en tout cas le marché price des choses qui sont difficilement tenables pour 2023 et 2024. Là ce matin, c'est le marché bancaire qui est attaqué. On a des baisses de 3, 3,5, 4% sur l'ensemble du secteur bancaire, alors que la hausse des taux devrait générer des flux et on va dire un PNL qui est plutôt en leur faveur sur 2023. Donc aujourd'hui, c'est difficilement concevable d'avoir des niveaux de valorisation comme ça. Donc aujourd'hui, on navigue vraiment à vue et c'est vraiment ultra compliqué parce que le plus 4%, effectivement, Amandine vient de le dire, c'est vraiment des rachats de shorts ces derniers jours. On a des valeurs qui ont des niveaux de shorts qui sont assez incroyables, de 20 à 30% du capital qui sont shortés, même dans des boîtes qui sont proches du CAC 40 ou dans le CAC 40. C'est quand même des niveaux assez incroyables. Et donc, on va avoir des rebonds extrêmement violents, qui sont d'ailleurs beaucoup plus violents quand le marché est baissier, et on est dans un marché baissier depuis le début d'année, et les rebonds sont plus violents que dans un marché haussier. Donc on risque d'avoir encore beaucoup de volatilité tant que les taux ne se sont pas stabilisés, et on espère avoir un peu plus de visibilité d'ici la fin de l'année.
Ouais, c'est intéressant ce que dit Thibault, Amandine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on s'intéresse au cœur de cette sélection, effectivement, au marché action, mais on peut pas se dissocier de ce qui se passe sur l'obli, et c'est vrai que ces derniers temps, ça a quand même été assez particulier sur ce marché obligataire. Vous le regardez aussi, vous le comparez entre guillemets.
Alors, le comparer, c'est pas le bon terme, mais il est clair que c'est interdépendant, hein, et qu'aujourd'hui, le focus du marché est des investisseurs sur le marché obligataire, qu'on assiste à un krach obligataire qui s'est accéléré ces dernières semaines, justement parce que les investisseurs doutent de l'effet des politiques de banque centrale sur l'inflation, comme le précisait Thibault. Donc oui, bien entendu, on est obligé de tenir compte de ce qui se passe sur le marché obligataire. Et la situation aujourd'hui, quelque part, elle est plus difficile à vivre pour les gérants obligataires que pour les gérants actions. Déjà parce qu'ils n'ont pas connu de crise depuis très longtemps. Et parce que la facilité, on va dire, avec lesquelles les quantitative easing ont été déployés ces 10 dernières années, fait que effectivement le monde obligataire ne se posait pas trop de questions en arrivant le matin. Donc là, on est dans un scénario complètement inverse. Et les parties prudentes du portefeuille, cette année, ne protègent pas du tout les clients. Donc, il est clair que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et ça se reflète aussi, bien entendu, dans les politiques capitalistiques des entreprises et notamment par rapport aux leviers qu'elles ont dans leur bilan. Thibault mentionnait le fait qu'il y avait jusqu'à 30% de short sur certaines valeurs. Souvent, justement, ce sont des valeurs qui sont plus endettées que la moyenne.
Voilà donc la vision générale de nos deux traders. Rentrons maintenant un petit peu dans le comportement de la sélection. Alors, je sens que vous allez tous les deux essayer de mettre en avant la contre-performance d'M6 et on va s'y attarder. Mais je voudrais d'abord vous entendre sur sur la contre-performance un peu de notre sélection. On fait -16,5 en ce moment, là où le CAC limite entre guillemets son repli à 13%. Donc, comment voyez-vous les choses, Thibault?
Pour l'instant, on maintient ces 3 points de retard. Ça fait déjà quelques semaines, quelques
mois. Mais on les avait un peu réduits à un moment.
Oui, c'était un petit peu mieux. Là, je pense que clairement hier, on n'a pas fait la hausse. Les 4 points de hausse du CAC 40 nous font mal hier parce que effectivement, on a 2-3 valeurs qu'on sous-performé. On a en plus du cash, donc 15% de cash quand le marché gagne 4 points, ça nous fait sous-performer déjà de 0,6. Et on a une valeur qui a été, on va dire, sous-performante ces derniers jours. On va en reparler tout à l'heure. Mais on maintient ces 3 points d'écart. Le marché étant toujours très volatile et sur lequel on ne peut pas s'appuyer, on ne peut pas vraiment avoir des stratégies moyen long terme sur le marché actuellement. On préfère avoir du cash. On verra un petit peu comment ça se passe dans les prochaines semaines. Mais encore une fois, et Amandine l'a bien dit tout à l'heure, à partir du moment où ça va commencer à se stabiliser sur les taux. Le problème, c'est pas l'inflation. L'inflation à 7 ou 8%, on peut la gérer quand il n'y a pas d'accélération. Si on a 7 ou 8% d'inflation l'année prochaine et que c'est durable, on pourra le gérer, les actions pourront le gérer, les sociétés pourront le gérer. Là, aujourd'hui, c'est l'accélération de la hausse des taux qui est vraiment problématique pour le marché actions et sur le marché obligataire. Dès que ça veut se stabiliser, on va retrouver du souffle sur le marché actions et je pense qu'il y aura une forte volatilité à la hausse pour le marché actions. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a 3 points de retard et on va essayer de revenir sur notamment sur les prochaines publications qui devraient être plutôt favorables à notre portefeuille.
Amandine, votre regard, vous, sur la petite contre-performance de la sélection?
Elle est due effectivement intégralement à la journée d'hier, hein, et à notre 15% de cash plus la contre-performance d'M6 hier. Donc c'est clair. 3% de rendement, c'est aussi niveau de 3% d'écart, c'est aussi niveau de rendement du CAC 40, hein, même un peu au-delà. Donc dividende réinvesti. Donc on colle au CAC 40 puisque rappelons que nous on n'a pas de dividendes dans cette sélection. Et effectivement, vu le manque de visibilité et la fréquence de l'émission, puisque nous ne sommes qu'hebdomadaires, on préfère conserver cette poche de cash, et je pense que c'est unanime, aujourd'hui, puisque quelque part, il faudrait presque traiter quotidiennement en ce moment, ce qui est complètement impossible. Donc la prudence nous incite à garder notre poche de liquidité le temps d'y voir plus clair.
Alors, rentrons dans les détails de ce dossier M6 qui nous préoccupe maintenant depuis quelques semaines, parce qu'au départ, les données du problème étaient bien différentes, non, Thibault ?
Le dossier M6, c'est malheureusement, on a quand même pas mal de dossiers comme ça sur le marché parisien en ce moment. On va dire que TF1 M6, ça c'est pas d'un point de vue fusion parce que on a un problème, on va dire, de de concurrence. Alors oui, c'est vrai que ils auraient représenté 30% du marché français, donc d'un point de vue concurrence, ça pourrait poser problème. Mais c'est vraiment un problème encore européen, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à fusionner des grands groupes aujourd'hui en Europe, alors qu'il y a beaucoup moins de difficultés que ce soit en Asie ou aux États-Unis. Et je pense que c'est sincèrement au détriment des entreprises européennes sur le moyen long terme. Je pense que c'est un vrai problème. On a en plus une réglementation française qui empêche tout opérateur à avoir plus de 49% de son capital via une autre société à partir du moment où vous avez plus de 8% de part de marché sur le marché français des médias français. Ça fait une double peine pour l'ensemble de ces groupes-là, donc TF1 et M6. Donc ils n'ont pas pu fusionner. Derrière, difficile de vendre parce que en plus on a un problème de timing pour le groupe RTL pour vendre M6. Et donc forcément il y a la prime spéculative sur M6 qui sort. Et donc on se retrouve avec un titre M6 où tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas du tout le prix actuel d'M6 en termes de valorisation. Tout le monde est prêt à faire des offres au-delà de 20 euros sur le titre. Et malheureusement, en bourse, ça vaut 11-20 parce que d'un point de vue réglementaire, grosso modo, on peut pas acheter M6. Et donc, M6 va être obligé de se débrouiller seul pour pouvoir faire de la croissance et pour pouvoir développer son groupe. Donc, ça sera par le rachat de contenu, ça sera par le rachat d'entreprises peut-être à l'international. Mais en tout cas, il faudra trouver d'autres moyens pour se développer pour M6 et même TF1 d'ailleurs, sur les prochaines années pour pouvoir conquérir, on va dire, des parts de marché. Je trouve que c'est dommage que des groupes comme ça, en Europe, ne puissent pas se développer à cause de la réglementation, mais aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. On sait tous que ça vaut moins cher, plus cher, mais aujourd'hui, malheureusement, en bourse, on est encore moins 35 depuis le début de l'année, sur un groupe qui, je le rappelle, n'est pas du tout endetté, a une trésorerie nette, et par contre, se fait shorter par le marché aujourd'hui. Donc c'est un groupe qui est shorté alors qu'elle n'a pas de dette. C'est encore une aberration de marché, selon moi, et il y en a beaucoup actuellement dans le marché parisien.
Amandine, une petite minute à peine pour nous livrer votre sentiment, vous, effectivement, sur ces moins 10, 41 en un mois sur M6.
C'est surtout la journée d'hier, là aussi, puisque la valeur a fait moins de 10 sur la journée d'hier. Oui, ben c'est clair que c'est une déception. Je rejoins Thibault sur tout ce qui est anti-concurrence. On raisonne aujourd'hui sur un marché français alors que la concurrence est mondiale. Ça, c'est bien clair. Ce qu'il faut préciser aux auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, du coup, à ce niveau-là de cours, vous avez 9% de rendement sur le titre M6. Et des second point, lorsqu'un investisseur fait une proposition avec une prime, il estime toujours que derrière, il peut créer de la valeur au-delà de cette prime. Donc, 20 euros est véritablement une valeur planchée qu'ont proposé les consortiums qui souhaitaient racheter M6. Tout en calculant que derrière, ils étaient encore capables de créer de la valeur au-delà de ça. Donc effectivement, ce cours de 11 euros est complètement absurde en termes fondamentaux.
Merci à tous les deux. Donc, pas d'arbitrage cette semaine sur cette sélection. Amandine Gérard, depuis Financière de l'Arc, Thibault François, Fastea Capital était avec nous dans un instant, 60 minutes business, et Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Votre menu du jour.
Alors, on va parler évidemment des principaux fournisseurs d'énergie qui ont signé une charte qui les engage à protéger les entreprises. Annonce de Bruno Le Maire tout à l'heure. Qu'est-ce que cela implique? On verra ça avec Thomas Sasportas. On attend la réunion des membres de l'OPEP+, cet après-midi, 14h, en physique, à Vienne. Au menu, probablement une baisse significative des quotas de production de pétrole. On va avoir les enjeux dans notre focus avec Benjamin Louvet, et puis on parlera de ciment, mais de ciment vert, à l'occasion du Mondial du bâtiment avec Julien Blanchard qui viendra nous présenter son entreprise. Et puis évidemment, à 12h30, on répondra aux questions des auditeurs téléspectateurs avec Lorraine Goumeau.
Merci beaucoup, bonne émission. On vous retrouve dans un instant donc pour 60 minutes business, le marché parisien qui lui a cassé pour le moment les 6000 points, 5977 points. On est au plus bas du jour, on perd 1,03%. Et moi je vous retrouve demain à 10h. Très bonne journée.